Et puis en deuxième partie, nous aurons le plaisir de recevoir Guillaume Carnino, qui est l'auteur dans la collection L'univers historique au seuil de L'invention de la science, la nouvelle religion de l'âge industriel.
Merci.
France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
Vous dites que Dieu est l'horloger suprême, qu'il a établi toutes les lois du monde et pourtant il les viole par des miracles. Comment?
Oui.
Alors, comment expliquez-vous ça?
Je n'ai pas à expliquer Dieu. S'il viole ses propres lois, c'est évidemment pour nous instruire.
Mais oui, ah, voilà. Alors, drôle d'instruction, avouez. L'existence de Dieu est prouvée à la fois par l'ordre et par le désordre.
C'est comme ça.
Ce qui est abominable, c'est l'esprit de 89. On commence par contester Dieu, puis on discute au gouvernement. Moi, je lui dis très clairement, pas d'État sans Dieu.
Et moi, je trouve que l'empereur donne un exemple déplorable aux Tuileries, en laissant les maçons travailler le dimanche.
Même la science est dangereuse. Elle peut faire le malheur du peuple en lui donnant des ambitions funestes. Il était plus heureux, ce pauvre peuple, quand les seigneurs et les évêques prenaient soin de lui. Maintenant, les industriels l'exploitent.
Il va tomber en esclavage.
Voilà donc un extrait du Bouvard et Pécuchet qui avait été produit pour la télévision française par et réalisé par Jean-Daniel Vérague en 1989 d'après l'ouvrage donc de Flaubert avec, on les a reconnus, Jean-Pierre Marielle entre autres et Jean Carmet dans les rôles principaux. Bonjour Guillaume Carnino.
Bonjour.
Vous êtes auteur de L'invention de la science, la nouvelle religion de l'âge industriel dans l'univers historique au seuil. Et nous n'avons pas parlé de cette question de la science pour pouvoir la réserver à la deuxième partie de notre émission, puisque c'est déjà présent dans l'ouvrage d'Emmanuel Furex et de François Jarige. Vous accordez une importance grande à ce texte de Flaubert en disant que, tout compte fait, il y a là, dans ces personnages de Bouvard et Pécuchet, et dans la volonté jusqu'à la mort, jusqu'à la fin de Flaubert, de faire advenir ces scènes autour des discussions sur la religion et sur la science qu'on vient d'entendre, eh bien quelque chose qui nous dit ce qu'était la place de la science dans ce 19e siècle, justement, Guillaume Carnino.
Alors en fait, Gustave Flaubert écrit Bouvard et Pécuchet à une époque où on ne parle pas du tout encore de crise de la science, où la science est dotée d'une certaine aura de foi, quasiment, on pourrait dire. Dans les années 1850, il y a un mouvement très massif de vulgarisation savante qui se déploie, qui va populariser dans l'ensemble de la société française, et d'ailleurs au-delà aussi, mais pour le cas de la France dont on va plus parler, j'imagine, qui va populariser l'idée de science avec des revues. Aujourd'hui, on a quelques restes de ces revues, Science et Vie, Science et Avenir, La Recherche, on a 4-5 revues qui battent en duel. À l'époque, c'est certaines années jusqu'à 30 ou 40 titres qui sont publiés de vulgarisation savante. Et Flaubert ironise dans Bouvard et Pécuchet sur ce miroir aux alouettes, cette idée que la science peut être mise dans les mains du peuple. Et d'ailleurs, on voit que ce dialogue le met en scène de façon à nouveau assez caustique, puisque l'histoire de Bouvard et Pécuchet, eh bien, en gros, c'est celle de deux commis qui se piquent de réaliser réellement les ambitions de la science populaire et de réaliser donc dans leur grange les expériences des savants. Ils font sauter la maisonnée, se mettent à dos tous les voisins, massacrent l'éducation d'un certain nombre d'enfants, et bref, au final, plus personne ne les prend au sérieux, y compris eux-mêmes. Ils se remettent donc à la copie. Donc en quelque sorte, Flaubert, c'est là en quelque sorte son génie, on pourrait dire, près de 15 ans avant la crise de la science, dont on parlera dans les années 1896, 17 et même après, il ironise déjà sur la science comme étant en quelque sorte une illusion. On nous fait croire que la science c'est le lieu terminal, la réalisation finale de l'histoire de l'humanité et de ses bonheurs à venir, et Flaubert ironise déjà sur cette question.
Alors, votre livre, L'invention de la science, porte bien son titre, puisque vous nous expliquez, graphique à l'appui, que ce terme de science au singulier, et non pas au pluriel, non pas les sciences, mais la science, apparaît de façon massive à partir des années 1820 dans la littérature, quand on regarde ce qui est publié par l'intermédiaire du catalogue de la Bibliothèque nationale, et que le terme de scientifique lui-même, alors là, il naît véritablement à ce moment-là, aux alentours de 1820-1830. Auparavant, il n'est jamais utilisé. Donc il y a là bien quelque chose que vous pointez du doigt, c'est cette invention de la science qui vient en contrepartie, ou même vient se fracasser de ce qu'on disait auparavant des sciences, des arts et des techniques, par exemple, Guillaume Carnino.
Exactement, peut-être juste avant de préciser ce point, dissiper un malentendu qui peut arriver quelquefois, je ne défends pas du tout le fait fait que les années 1820, 30, 40 et après inventent la botanique, les mathématiques, bien l'astronomie. Sûr. Tout ceci existe auparavant. Simplement, on assiste à une nouvelle segmentation du savoir qui se retrouve en quelque sorte subsumée sous l'étiquette de science au singulier. Au XVIIIe siècle, on trouve un grand nombre d'ouvrages qui parlent de la science au sens d'un savoir générique, la science du bonheur, la science du sens de la répartie, de l'équitation, de tout ce que l'on veut. Le XIXe siècle transforme la nature même de ce que l'on attache au terme de science, et désormais la science va être un synonyme direct d'un savoir expérimental, mathématisé, de laboratoire. Donc c'est d'une transformation linguistique dont il s'agit, mais comme toujours, ou presque, les transformations linguistiques recouvrent des transformations sociales d'ampleur. Et ici, on recolle directement à ce dont on parlait dans la première partie de l'émission, à savoir un certain nombre de recompositions propres à cette invention du discours de la modernité sur elle-même.
Alors, pour inventer ce discours de la modernité, on ne se cale pas simplement sur ce qui se passe dans la société qu'on a déjà décrit, cette révolution ou pas industrielle que l'on peut pointer du doigt, l'arrivée des machines à vapeur, du chemin de fer. On va chercher aussi dans le passé, et vous nous expliquez très bien comment les débats, par exemple, autour de la figure de Galilée, nourrissent effectivement cette question de savoir si Galilée était un scientifique, s'il était un apostat, s'il était un religieux ou pas, et pourquoi cette nouveauté radicale qu'apporte Galilée dans l'histoire des sciences a été au cœur du débat du 19e siècle, Guillaume Carnino.
Alors ce qui est fascinant avec l'histoire de Galilée, ou plutôt même l'historiographie galiléenne, c'est que personne n'est d'accord sur qui était Galilée. On a l'impression qu'il y a autant de Galilée que d'auteurs qui ont écrit sur ce personnage. Des fois il est décrit ingénieur, artisan, hérétique, scientifique, courtisan même. Un grand ouvrage de Mario Biagioli le décrit comme ayant la trajectoire d'un courtisan en grâce puis en disgrâce. Et ce qui m'a semblé intéressant, c'est de voir dans cette figure de Galilée la façon dont le 19e siècle va l'inventer pour correspondre à ces problématiques notamment sociale, politique et religieuse. Et donc, au début du siècle, alors au XVIIIe siècle, Galilée est un quasi inconnu. Hein, dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, il est cité un petit peu en passant. C'est notamment Voltaire et la marquise du Châtelet qui vont participer à une forme d'habilitation de Galilée en France. Et par la suite, on fait de Galilée simplement l'un des premiers grands défricheurs d'une nouvelle façon de philosopher. Dans les années, au cours de la monarchie de Juillet notamment, enfin sous la monarchie de Juillet, on va interroger Galilée comme étant plutôt le fondateur des sciences au pluriel. Et c'est vraiment dans les années au milieu du siècle, à la fin des années 1840, 1850, que l'on va présenter Galilée comme étant le grand découvreur de la science moderne au singulier. À terme, dans les années des grands débats anticléricaux sous le Second Empire, la décennie 1860, on va inventer un Galilée anticlérical, ce qui est un contresens historique absolu. Galilée dialogue avec les jésuites, c'est un grand ami de Maffeo Barberini qui devient le pape Urbain VIII par la suite. Et d'ailleurs, si Galilée a eu des problèmes, c'est aussi notamment parce qu'il était censé être le héros des savoirs savants catholiques contre un Copernic réformé.
Ce qui est très intéressant, en fait, quand on vous lit Guillaume Carnino dans l'invention de la science, c'est qu'on s'aperçoit que certains des modèles que l'on croirait propres à la fin du XXe siècle ou au début du XXIe siècle, pour ce qui est de la question de la discussion scientifique, en particulier le modèle du scandale, sont des modèles qui ont très bien fonctionné justement dans ce XIXe siècle qui découvrait la science. Le scandale, par exemple, des faux de Vrin-Lucas vendus au mathématicien Schall qui fait une déclaration et qui fait une communication à l'Académie dans les années 1860, ce scandale-là va nourrir, justement, puisque ce sont des œuvres fausses, des lettres fausses, de Galilée en particulier, va nourrir, justement, ce débat sur la science, parce que ça procède aussi par cette question de scandale dans une société qui multiplie, comme vous l'avez expliqué, la littérature populaire autour de la question de la science.
Alors en fait, l'affaire de Denis Vrin-Lucas, que Proust mentionne toujours comme étant assez incroyable, puisqu'il s'agit d'un faussaire à plein temps, qui, comme ironise Proust d'ailleurs 50 ans plus tard, il dit « c'est incroyable cette histoire d'un homme qui passait tellement de temps à faire des faux qu'il aurait gagné bien plus d'argent en passant son temps à un métier tout à fait
honnête. » Il faisait des fausses lettres de Jésus et des choses comme
exactement,
ça.
Enfin, on trouve des lettres de Vercingétorix, de César à Vercingétorix, qui lui enjoint de se rendre à Alésia, enfin bref, des choses assez incroyables, d'Abélard à Héloïse, on retrouve toute la grande histoire dans les faux de Brun-Lucas, et il en vend pour plus d'une centaine de milliers de francs à l'académicien Michel Chasles. Et c'est une époque où on découvre, en raison de cette affaire des faux notamment, la fièvre et l'appétit positiviste en matière de correspondance scientifique. Cette idée vraiment d'ériger la vie des anciens savants sur un piédestal, une sorte de canonisation laïque, qui se veut d'ailleurs anticléricale, ce qui est paradoxal, et ce qui m'a fait justement utiliser le terme de religion pour ce développement des sciences. Une époque donc où on canonise la vie des savants, et l'un des exemples les plus parlants de cela, c'est l'histoire et la biographie de Louis Pasteur, qui commence...
Oui. C'est extraordinaire. Alors, en 1906, dites-vous, le Petit Parisien fait une sorte de sondage auprès de ses lecteurs et demande quels sont les personnages les plus importants du 19e siècle, du siècle qui vient de s'achever. Et celui qui arrive en premier, devant Victor Hugo, qui arrive en premier devant tous les autres, c'est Louis Pasteur.
Et le chiffre est d'autant plus impressionnant, puisqu'il s'agit d'un plébiscite populaire, que le 9e personnage en tête de liste, c'est le docteur Roux, qui lui-même était un proche collaborateur de Pasteur et qui a hérité de l'aura de Pasteur lui-même. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est que Pasteur obtient cette aura du savant désintéressé qui œuvre pour la gloire future de l'humanité, alors même qu'il travaille toute sa vie durant pour les bénéfices et pour en lien très très étroit avec l'industrie et le pouvoir politique. Mmh. Donc on a une forme de figure qui s'invente, la science pure, désintéressée, qui œuvre pour le bien de l'humanité, alors même que celle-ci peut se mettre en place précisément comme le lieu d'une transaction entre un pouvoir savant et un pouvoir économique et politique.
Alors, par rapport à ces questions, il y a évidemment tout ce que vous pointez du doigt et qu'on peut déjà avoir lu chez d'autres, mais qui, rassemblé avec ces autres exemples de Galilée, de Pasteur et de bien d'autres, est important. L'exemple de Darwin et de sa traduction et son introduction sur le territoire français, l'exemple de Boucher de Perthes, l'inventeur de la préhistoire, et des débats qui sont liés justement à la question de depuis combien de temps l'homme est-il sur Terre, débats qui vont évidemment s'accentuer avec des questions religieuses par rapport à l'Église. Tout cela, effectivement, fait de cette deuxième moitié, surtout du 19e siècle, un moment très particulier où le débat scientifique est partagé par énormément de monde, par l'intermédiaire de ces journaux que vous décrivez, très nombreux, qui s'en font le relais vis-à-vis d'un public beaucoup plus large que le public des simples savants.
Oui, alors on a un effet de bord d'une situation politique, 1858, attentat d'Orsini, deuxième décennie du Second Empire, pour diverses raisons, l'empereur libéralise sa politique et mène notamment une guerre en Italie, notamment pour lâcher un peu de lest auprès des républicains, mais ce qui a pour conséquence de tendre les relations entre le trône impérial et l'autel papal. Conséquence de cela, les républicains qui rongent leurs freins se disent qu'ils ont désormais la possibilité d'utiliser la reine savante comme un moyen d'attaquer l'Église catholique et de recourir moins les foudres du pouvoir impérial. Donc c'est 1859, vraiment le coup d'envoi de multiples controverses. L'une, vous avez parlé des découvertes de Boucher de Perthes, Nathalie Richard a très bien documenté cette question, sur la question de la préhistoire, est-ce que l'être humain a quelques milliers d'années comme le défend la Bible ou est-ce qu'il a beaucoup plus? La question de l'origine des espèces avec la traduction de Darwin, la première traduction de l'origine des espèces de Darwin en langue française, qui est réalisée par Clémence Royer, une autodidacte et anticléricale vraiment viscérale.
La Marquienne,
d'autant plus, c'est qu'il massacre un petit peu le texte de Darwin, en changeant point, d'ailleurs le titre.
Au point qu'il est obligé lui-même de contester cette préface à son propre ouvrage.
Exactement, et ce qui est d'autant plus dommageable à la réception de son ouvrage, qu'un certain nombre de journalistes peu scrupuleux n'ont pas lu la totalité de l'ouvrage, et simplement la préface. Donc évidemment, leur vision de la chose...
Vous voulez dire que les journalistes ne lisent pas toujours les livres, c'est ce que vous laissez entendre déjà au 19e siècle.
Dans la fabrique de l'histoire. Mais donc, pour ce qui est de ces débats, on a aussi un grand débat autour de la question du monogénisme ou polygénisme, est-ce qu'il y a plusieurs origines à l'espèce humaine ou une seule, le couple censément Adam et Ève tel que le défendent les monogénistes, et puis la question du débat Pasteur-Pouchet sur la génération spontanée. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas Pasteur le rationaliste qui s'oppose au protestant Pouchet qui serait spiritualiste, mais à l'inverse, Pasteur catholique qui défend le fait qu'il n'y a pas de génération spontanée parce que sinon cela signifierait que des êtres auraient pu advenir au monde sans ancêtres, c'est-à-dire sans avoir été créés une fois pour toutes par la divinité. Donc on a tous ces multiples débats adjoints à l'affaire Galilée qui vont mobiliser dans la totalité de l'espace public la question de la science.
Ce qui est fort intéressant, et quand on relit, et vous la citez évidemment, vos travaux avec ceux par exemple de Jacqueline Carrois, qui travaille sur les rêves des scientifiques au 19e siècle. Ces gens notent leurs rêves, parce que cette question du rêve, qui n'est plus simplement un rêve qui nous annonce l'avenir, mais qui peut avoir un lien bien avant que Freud y pense, avec son histoire passée de personne, d'une certaine façon, ces rêves nous montrent des scientifiques qui ne sont pas, disons, contrairement à ce qu'ils croient, dans la science pure. Parce que si on les voyait dans la science pure, on verrait des personnages rationnels à tout moment. Or, ils peuvent à la fois être scientifiques extrêmement rationnels dans leur laboratoire, et vous le décrivez, mais aussi croire aux tables tournantes, croire aux esprits, croire aux fantômes, et tout cela tout en même temps. Et c'est ça qui est passionnant dans cette histoire que vous racontez très bien, Guillaume Cardinaux, c'est ce mélange justement entre une science que l'on appellerait expérimentale et puis tout ce qui, dans la sphère publique, porte le nom de science et n'en est pas véritablement.
Il y a cette dimension qui, vous le soulignez très justement, me semble assez fondamentale, d'une séparation constitutive entre le domaine scientifique, qui est censé être l'apanage de la rationalité, de l'expérimentalisme, et de l'autre côté, ce qui initialement se présente comme la face religieuse de la société, mais qui au fond va être une séparation terminale en quelque sorte, entre science et culture, d'un autre côté. C'est d'ailleurs des termes de Bernard Charbonneau dans son ouvrage Nuit et jour, science et culture, où il dit c'est comme l'avers et le revers d'une même médaille. Les deux adviennent en même temps.
Les personnages ne sont pas évidemment coupés en deux d'une certaine façon.
Et pourtant ils se vivent comme cela. Voilà, dans leur intériorité psychologique, c'est ça qui est fascinant. Ils peuvent dire, quand j'entre dans mon oratoire, je ferme la porte de mon laboratoire et inversement. Pasteur commence l'un de ses grands discours en Sorbonne pour défendre justement ses thèses contre la génération spontanée et contre Pouchet en disant « Toutes ces questions sont animées aujourd'hui par des esprits qui prétendent affirmer Dieu. » Donc il affirme en première personne qu'il est là pour maintenir la foi catholique. Et dans la phrase suivante, il dit mais en tant que savant, tout ceci ne m'importe pas. Je ne vais parler que de la vérité pure. Donc on a une forme de partition sociale qui est intégrée dans l'esprit des acteurs eux-mêmes. Oui. Où ils se vivent comme différents quand ils font de la science et quand ils font de la religion.
Sauf quand le Times, vous le citez, en 1864, publie un manifeste des scientifiques chrétiens qui disent « Nous, sous-signés, livrés à l'étude des sciences naturelles, désirons exprimer notre sincère regret de ce que la recherche de la vérité scientifique est détournée de son but par quelques hommes de ce temps-ci qui en font une occasion de jeter des doutes sur la véracité et l'authenticité des saintes écritures. Donc comment croire à la Bible en même temps et par ailleurs pouvoir être un scientifique raisonnable, raisonné dans le siècle de la raison?
Alors en fait, ici, il y en a des discussions politiques qui, en raison de l'existence d'agendas assez divers, tout le monde s'accorde pour séparer science et religion. Les anticléricaux utilisent la science pour attaquer la religion, donc ils disent que ça n'a tellement rien à voir que c'est même son contraire. Les catholiques, à l'inverse, en gros, ont cette stratégie de ployer pour ne pas rompre. Et ils disent, très bien, il faut en effet effectuer cette partition entre science et religion précisément pour maintenir une vérité qui serait celle des saintes écritures, qu'un être humain ne peut pas comprendre totalement la vérité divine, etc.
Mais il faut dire, Guillaume Cardinaux, qu'ils ont de très bons exemples sous les yeux. C'est-à-dire que d'une certaine façon, ce siècle qu'on a décrit en parlant avec Emmanuel Furex et François Jarige, avec toute cette modernité technique qui se met en route, le chemin de fer, la machine à vapeur, les expositions universelles, vous insistez beaucoup sur cette question de la science appliquée pour pouvoir être vue par des milliers, des centaines de milliers de personnes dans les expositions universelles, ça leur donne quand même à ces scientifiques l'impression qu'ils sont des démiurges en tous les cas, qu'ils ont quelque chose dans la main qui fait d'eux des demi-dieux.
Alors il y a cette dimension de toute puissance et je pense que des personnages comme Pasteur vont être en mesure de l'instrumentaliser à dessein pour jouer sur la frontière entre le vivant et le mort. Les images, les daguerréotypes de Pasteur au chevet du petit Meister qu'il vaccine contre la rage sont quasiment des images christiques.
Bien sûr,
il dit cet enfant vivra, cet enfant ne vivra pas. Ces moutons, il fait la même chose dans sa célèbre expérience à Pouilly-le-Fort, ces moutons mourront car ils n'ont pas été vaccinés, ces moutons vivront. Donc il y a un geste quasiment démiurgique, divin. Et c'est ce qui me semble être l'alibi d'une science qui, alors qu'elle est extrêmement intéressée et travaille au plus près des pouvoirs politiques et industriels, qui peut apparaître totalement désintéressée, comme pure, comme désincarnée, comme flottant au-dessus de la mêlée sociale. Donc on a ce double geste qui peut apparaître paradoxal, mais qui me semble profondément unifié dans la biographie des acteurs que j'ai tenté d'étudier, à savoir, d'un côté, on affirme que la science est un ailleurs, un au-delà, qu'elle n'intéresse personne, qu'elle ne sert personne, et en même temps de l'autre, on dit que la science fait tout, transforme tout, modifie le monde et produit le futur de l'humanité.
Merci beaucoup Guillaume Cardinaux de nous avoir montré par exemple et fait ressurgir pour des gens qui ne les connaissaient pas comme moi, des figures comme celle de Louis Figuier, docteur en médecine et en sciences physiques, auteur de chroniques scientifiques dans les journaux et qui a même l'idée de faire la science par le théâtre, dites-vous, ou encore Victor Meunier, scientifique socialiste que vous mettez en scène. On connaît évidemment Camille Flammarion pour ses travaux de popularisation de la question astronomique. Et moi, je savais pas que Jean Massé, un des grands-pères de la Ligue de l'enseignement et de la question de l'enseignement pour tous, avait écrit en 1861 « L'histoire d'une bouchée de pain ». Science populaire, l'histoire d'une bouchée de pain, si c'est là ce que je veux vous raconter, vous me direz que ce n'est pas la peine, vous en avez là-dessus aussi long que moi, et je ne vous apprendrai pas la manière de mordre dans une tartine. Eh bien, vous ne vous doutez pas de la quantité incroyable de choses qu'il y a sous ce petit mot. On pourrait voir en Jean Massé le prédécesseur de nos chroniqueurs scientifiques qui, à la télévision, de Michel Chevalet à François Clauzet, à Jamy ou à d'autres, nous explique comme ça. Vous allez être surpris, la science est surprenante. Même une bouchée de pain peut vous surprendre, Guillaume Carnino.
Alors, le projet de Jean Massé, au fond, c'est le même que celui de Jules Verne et celui qui fera la fortune de Jules Verne, qui fera que Jules Verne sera reçu en tant qu'ambassadeur du progrès au Vatican. L'idée qu'il y a derrière, c'est de dire qu'on peut remplacer le fantastique des contes de fées, les dragons, les baguettes magiques, les chevaliers, je ne sais quoi, par le merveilleux de la science.
Ah, oui.
Et ce merveilleux, c'est justement ce que défend Jean Massé en disant l'histoire d'une bouchée de pain. Il s'adresse notamment aux petites filles en écrivant cet ouvrage, en disant « Vous pensez tout savoir là-dessus et pourtant, il n'y a rien de plus merveilleux qu'une tartine de pain qui se transforme en petite fille par tout un mécanisme de digestion, ou une herbe qui se transforme en vache. » Il dit, et c'est beaucoup plus magnifique, en quelque sorte, qu'un coup de baguette magique. Mais ce qui se joue là-dedans, c'est précisément le remplacement d'une ontologie de sens commun, c'est-à-dire d'un rapport à la réalité composée de bouteilles, de fourchettes, de vaches, d'arbres, par une ontologie scientifique. Petit à petit, tout cela infuse dans la population française l'idée que c'est la science qui nous dit le vrai du monde. Et dans le jardin potager, on n'a pas des patates, des carottes, des choux et je ne sais quoi, on a des ombellifères, des graminées et tout un tas de substances qui sont le propre des scientifiques. Désormais, seuls les scientifiques sont en mesure de dire le vrai du monde.
Mais qu'est-ce qui va se passer pour qu'à la toute fin du 19e siècle, Guillaume Carnino, eh bien justement, cette belle construction, ce bel ouvrage soit mis à mal justement par le doute scientifique, le doute sur la science?
Alors, il y a déjà un épisode précédent, mais qui est le moment où les républicains vont mobiliser cette science pour en faire une forme de destinée terminale, une nouvelle eschatologie de la destinée humaine. Et face à cette science qui sera véritablement l'école gratuite, laïque et obligatoire de Jules Ferry, c'est une façon d'imposer cette science mythologique dans les esprits. Mais donc, à force de, en effet, prétendre que la science va tout résoudre et tout réussir, eh bien, on a un certain nombre de questions qui résistent, notamment, pensez à l'expérience de Michelson-Morley, qui mènera par la suite aux théories de la relativité, une fois qu'Einstein proposera en 1905 puis 1915 de les résoudre en oblitérant l'hypothèse de l'éther et donc d'un temps absolu. Mais indépendamment de cette expérience donnée, on a tout un tas de facteurs qui font que la science, ayant tant que cela était mobilisé comme une façon de résoudre tous les problèmes,
elle a tellement promis
qu'on s'aperçoit que les choses sont plus complexes. Et d'ailleurs, il me semble que dans la société tout à fait contemporaine, celle que l'on vit aujourd'hui, on est héritier de cette histoire-là. Et qu'après un siècle avec, notamment le 20e siècle, après un siècle avec deux guerres mondiales, une Shoah, des catastrophes environnementales, atomiques et autres, eh bien le discours de la science et du progrès, vraiment diptyque incroyable, qui prétend tout résoudre à la fin du 19e siècle, eh bien ce diptyque ne fonctionne plus et c'est en quelque sorte désincarné ou dégradé dans la recherche et l'innovation, que l'on pourrait peut-être formuler à la façon d'un nouveau catéchisme contemporain, mais cette fois-ci d'une eschatologie bien plus réduite, dans un temps très raccourci qui est le temps de celui dans lequel on vit.
Merci Guillaume Carnino. On comprend qu'il faut vous lire. Donc, l'invention de la science, la nouvelle religion de l'âge industriel, dans la collection L'Univers historique au Seuil. Et